Alors, je suis à l'hôtel de Véronique Jeannot. Je l'attends, j'ai rendez-vous à 6h avec elle. C'est sa deuxième visite à Auroville. Elle est venue nous présenter son premier film, le premier film qu'elle a réalisé et écrit elle-même, Dakini, le féminin de la sagesse. Elle arrive. Coucou.
J'ai essayé de faire le plus vite possible. Et alors, je me suis entraînée dans un endroit absolument magnifique.
Mais bah, c'était difficile de partir. Il faut que j'aille.
C'est pas grave, c'est l'Inde, il y a plein d'imprévus, plein de belles choses qui se passent à plein de moments et on a envie d'être.
Et c'est difficile de ne pas vivre l'instant parce qu'on sait qu'il est précieux. Je sais pas, ça ouvre une autre dimension de vie, Auroville. Plein d'envie parce que tout semble accessible.
Exactement.
Alors qu'en France, il y a tellement de lois, tellement de contre, tellement de choses à contourner pour arriver. Là, on se dit, ça nous passe par la tête, qu'est-ce qui nous empêche de l'essayer ? C'est formidable. Donc c'est une ouverture au rêve. Mais le rêve, on a le droit de rêver à Auroville. Ouais. On a le droit de rêver, de se dire, oh, si ça existait. Parce que j'ai l'impression que tout ce qu'on peut rêver, à un moment, prend forme. En tout cas, on essaye de lui donner une forme. Comme si le rêve pouvait... Voilà, s'il y avait un endroit où on a l'impression que le rêve peut devenir réalité, c'est ici. C'est vraiment l'impression que ça me donne. C'est très particulier, l'impression qu'on a à Auroville. Et plus on approfondit ça, plus on rencontre les gens, plus cette impression se renforce. Plus on plante ses racines, en fait. Un peu comme les banyans. C'est-à-dire qu'au début, on est un petit peu comme ça, puis on dit, oh, si on a un tout petit peu, oh, on est vraiment pas loin de la terre. Là, puis on peut y aller, on essaye. Et puis finalement, on plante une racine, et puis on se dit, ah, c'est pas mal, la terre d'Auroville. C'est un petit peu ça. C'est un petit peu ça.
Tout est possible.
Ouais, tout me semble possible ici. S'il y a un endroit où on a l'impression que le rêve peut devenir réalité, c'est ici. Ici, à Auroville, il y a aussi ça. C'est la nature, on est dans la campagne. On sait pas, c'est pas la ville. Mais en même temps, il y a une organisation. On est en Inde, mais c'est quand même organisé.
Oui,
donc il y a quand même une qualité. Il y a une qualité de vie. Mais il y a quand même, En fait, il y a tout.
Exactement.
Il y a tout. Et alors que je dis Paris parce que Paris, parce que j'y suis beaucoup. Mais je sens un mur. J'ai l'impression qu'on se heurte à un mur, mais qu'on est dedans, qu'on ne peut pas, qu'il n'y a pas de sortie. Mmh. Je vois pas l'issue. Je trouve que je trouve qu'on marche sur la tête. Qu'on est sur des valeurs qui n'en sont plus. Je vois pas comment l'homme peut arriver à se trouver avec autant de pollution dans tous les sens, puisqu'on lui apprend pas à se connaître, dans tout ce qui se passe, on l'enseigne en fait à l'extérieur de lui, donc on lui enlève toutes les chances de se trouver ou de se retrouver, parce qu'il a pas le temps, parce qu'il faut aller vite, parce qu'il a plus le temps. Il faut du temps. Il faut du temps pour se trouver. Et puis c'est pas une des priorités. Hein. L'être disparaît quand on dit tout est fait pour l'homme. Non, rien n'est fait pour l'homme. Rien. Pour le confort, oui. Mais le confort, qu'est-ce que c'est ? Lié forcément dans cet esprit occidental à la consommation. Mais il n'y a rien de pire que la consommation, puisqu'elle ne fait que rendre esclave. En aucun cas, elle le libère, elle le rend esclave. Donc c'est le chat qui se mord la queue. Je ne vois vraiment pas comment on peut sortir de ça. Franchement, je ne sais pas. Et c'est vrai que tout d'un coup, quand je me retrouve à Auroville, je me dis, il y a une chance. Ou en tout cas, ceux qui sont là s'en sortiront.
Ça vous donne un peu d'espoir.
Ça, oui, ça donne de l'espoir.
Du coup, vous vous échappez de Paris.
Mais moi, je m'échappe. Mais moi, ça fait longtemps que je m'échappe. D'abord, je n'ai jamais aimé Paris. Mais pas parce que, pas pour la ville. Paris est une ville magnifique. La France est un pays magnifique. Mais aujourd'hui, on est quand même vraiment très entravé par trop de lois, je trouve, aussi bien physique que morale. Donc, je trouve qu'on n'arrive plus à trouver sa liberté. Donc, la seule liberté qu'on peut trouver, celle-là n'appartient qu'à nous, c'est sa liberté intérieure. Pour ça, il faut avoir déjà fait du chemin, des rencontres, eu justement du temps pour penser, pour comprendre, être passé par certaines étapes de vie, par certaines épreuves, qui fait qu'on va chercher forcément ailleurs. Ailleurs. Le ailleurs, il est plus haut, forcément. Mais c'est difficile dans des grandes villes comme Paris de trouver son chemin. C'est difficile. Et puis avec tout ce qu'on nous raconte, que c'est ça le progrès, que c'est ci, que c'est ça, il faut faire les bonnes rencontres pour qu'ils nous prouvent que c'est absolument pas ça. Les bonnes rencontres, ça peut être la bonne rencontre, hein, c'est soi aussi la bonne rencontre, parce qu'il y a toujours un message qu'il faut savoir entendre, une rencontre qu'il faut savoir faire, une disponibilité d'esprit qui permet de faire ces rencontres à tous les niveaux. Alors moi, on est toujours étonnés parce que je souris. Ça sur... Et c'est vrai que j'aime sourire. C'est ma façon de me véhiculer. Alors, pour plein de gens, comment je trouve plus mes mots, c'est une catastrophe. C'est péjoratif. Voilà, c'est trop simple. Alors ça veut dire qu'en fait, on a plus de mots, on est simple, qu'on n'a rien à dire. Alors que si on a une tête d'un tête. Bien fermé, c'est beaucoup plus intéressant. Il y a souvent beaucoup plus de choses derrière.
Il faut prendre des airs.
Et je trouve que le sourire est une façon de communiquer formidable. Bon, moi j'ai la chance, elle m'a été enseignée par. C'est la vie qui me l'a donnée. Et de rire surtout, même sur ce qui est triste. On me dit, mais attends, c'est pas drôle. Mais ça veut pas dire que je ne comprends pas que quelque chose n'est pas drôle. Ça veut dire que j'ai choisi d'en rire. J'ai choisi de sourire sur une souffrance, parce que ça ne sert à rien de pleurer sur une souffrance. Et qu'on peut aussi rire à travers ses larmes et pleurer à travers son rire. C'est des impulsions, c'est plein de choses. Il faut pas arrêter d'être prisonnier des mots. C'est toujours une phrase qui, pour moi, est une phrase, je dirais, c'est ma Bible. C'est Khalil Gibran, le prophète, qui a, à mon sens, a tout dit des choses les plus importantes. Mais cette phrase est un trésor pour moi, qui dit « La pensée est comme un oiseau qui, dans la cage des mots, peut étendre ses ailes mais ne peut pas voler. » Et c'est tellement vrai, on veut tout enfermer par des mots, par des lois et tout. Donc comment est-ce qu'on peut à un moment s'envoler? C'est pas possible. C'est dommage.
Il faut dépasser la pensée, sortir de la cage.
Ben, il faut pouvoir vivre sa pensée et accepter parfois que la pensée n'a pas de mots. De n'être que dans la pensée.
Ou alors qu'il n'y a pas de pensée, qu'on peut être sans pensée.
Aussi, ce qui à ce moment-là est la vacuité. Mais c'est certainement la chose la plus difficile à atteindre. Il faut déjà un sacré niveau pour atteindre la vacuité. Tare do re so ha.
Alors cette fois-ci, vous êtes venue avec un magnifique cadeau à Roville.
Oui, avec Dakini. Oui, je crois que c'est un beau cadeau. Et en plus, c'est vrai qu'à Roville, il est particulièrement bien reçu et c'est formidable, ça.
Oui. Alors ça, c'est le premier documentaire que vous réalisez complètement.
Oui. Ah oui, produit, écrit, réalisé, tout.
Tout, hein, les textes aussi, les commentaires, tout. Magnifique. Oui. J'ai adoré la poésie de ces textes.
Oui.
Oui, vraiment, ça touche une autre dimension tout de suite. Et la beauté des images, bien sûr, et de ces portraits de femmes extraordinaires.
Elles sont magnifiques, toutes. Ouais. D'Orient, d'Occident, c'est ça aussi qui est important. Que, habité par une philosophie, l'être tout d'un coup dépasse ses limites. Parce qu'en fait, les limites de l'être, elles sont quand même loin. Mais tant qu'on ne les a pas testées, on ne sait pas où elles sont.
On ne sait pas jusqu'où on peut les pousser.
On ne sait pas. C'est comme quand on dit oh non, moi je pourrais jamais. On sait pas. Ouais. Toujours, ne dis pas ça. C'est étonnant de voir combien les réactions peuvent être multiples au pied du mur et inattendues. Des gens qui, a priori, paraîtraient pas équipés ou faibles tout d'un coup, mais se retrouvent investis d'une force et d'une justesse de comportement fabuleux et inversement. Mmh. Inversement.
C'est ce qui sort aussi, hein, beaucoup dans ce documentaire sur l'aspect féminin de la sagesse, sur le féminin de la sagesse. Mm-hmm. Alors il y a toute cette beauté, cette poésie, ce rêve, cet aspect impalpable du féminin. Mm-hmm. Et puis aussi on voit des femmes très fortes.
Mais c'est pas parce que les choses sont impalpables qu'elles en sont moins fortes. Ouais. Au contraire, puisque c'est tout ce qui est impalpable, c'est la créativité. C'est l'intuition, c'est l'énergie de la nature, c'est l'énergie du moment, c'est l'énergie spontanée. Il n'y a rien de plus fort que ça. Il n'y a rien de plus fort, puisque c'est l'énergie spontanée, c'est l'énergie qui est décuplée au moment juste. Donc qui sera forcément décuplée parce que c'est à ce moment-là et pas à un autre, dans l'instant présent. Donc ça, c'est formidable. Donc au contraire, ce principe féminin, il est magnifique. Parce qu'il n'est régi justement par rien, par aucune loi, donc il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limite. C'est l'énergie de l'inspiration. Et c'est, voilà, les circonstances qui tout d'un coup sont vos alliés pour vous permettre de réaliser. C'est pour ça qu'on dit que le principe féminin est en fait indissociable du principe masculin, puisque le principe masculin, c'est celui qui réalise, donc c'est les moyens habiles, et le principe féminin est celui qui inspire, donc qui crée les circonstances favorables pour que les choses arrivent de façon beaucoup plus puissante.
Est-ce que dans votre vie c'est quelque chose de vivant? Est-ce que c'est une expérience au quotidien pour vous
Je suis souvent, c'est-à-dire que moi j'ai pas forcément conscience des choses et on me dit que c'est ainsi et je me rends pas forcément compte. Alors je commence à m'en rendre compte que j'ai effectivement, il y a un féminin qui agit très très fort en moi, sur mon chemin de vie, très très fort. Je suis pas du tout cadrée en fait. Donc c'est vraiment l'énergie du moment, c'est effectivement les circonstances. Je n'ai jamais de plan. C'est certainement l'énergie du moment, l'énergie spontanée, parce que j'ai pas de plan de pour rien. Et quand j'en fais, c'est une cata. Quand j'en fais, ça ne me réussit jamais. Donc j'ai compris qu'il fallait que je me laisse porter par les événements et j'accepte ça.
Il y a un guide, il y a quelque chose qui guide.
Ah oui, il y a quelque chose qui guide. Et que je ne peux pas expliquer. Que quelquefois, on me dit mais pourquoi ou comment ou t'as pas peur ou t'as... Ben, je dis non. On verra.
Dans le flot.
Mais quand je suis partie faire ce documentaire, qui paraît quand même évident aujourd'hui, mais il m'a fallu des années pour arriver à le résultat d'aujourd'hui, mais je suis vraiment partie fleur au fusil, en ne connaissant pas l'endroit où j'allais. Pour la première fois, je suis partie au Sikkim, je dirais pas sac à dos, mais quasiment, avec une jeune femme qui avait plus l'habitude de barouder que moi, qui n'avait jamais baroudé. Moi, j'avais voyagé, mais toujours extrêmement protégée par les productions qui me mettaient toujours dans un petit cocon. Et là, je suis partie, mais vraiment à l'aventure, dormir sur une paillasse dure comme du bois. Le jour, tout le temps, le matin, moi qui déteste ça, les sacs à porter, les bus, les précipices, les trous. Et en fait, je n'ai que des souvenirs extraordinaires. Rien n'a été... Le froid, je déteste le froid. Je me suis retrouvée en plein mois de janvier dans un hôtel pas chauffé au Sikkim. Et au mois de mars, pareil, au Népal. Enfin, c'était Dharamsala. Et je n'ai que des souvenirs extraordinaires. Parce que je pense que l'esprit porte le corps. Franchement, c'est que des meilleurs moments. C'est que des meilleurs moments. Mais en fait... Quelquefois, les pires moments qu'on a l'impression de passer s'avèrent être les meilleurs. Parce que c'est ceux qui vous ont fait vous adapter ou vous dépasser. Et c'est des cadeaux d'arriver à s'adapter. Parce que pareil, ça fait tomber les limites. Ça les repousse. L'adaptation, ça fait vraiment partie de ça. La faculté d'adaptation, ça fait partie de l'intelligence. C'est difficile, on en dit, c'est quoi l'intelligence? C'est vague. C'est pas... La culture, c'est bien, mais c'est pas ça l'intelligence. C'est... Je crois en tout cas que la faculté d'adaptation fait partie de l'intelligence. C'est sûr, l'ouverture fait partie de l'intelligence. Non. L'aptitude au bonheur fait partie de l'intelligence. L'ouverture du cœur fait partie de l'intelligence. La véritable intelligence, celle qui vous guide, celle qui vous emmène sur votre vrai chemin de vie. Je pense, en tout cas.
Vous avez l'impression d'être sur votre vrai chemin.
Ah oui, ah oui, oui. Ah oui, j'ai la conscience d'être sur mon chemin. Ouais. Aujourd'hui, maintenant, j'espère que je vais continuer sur mon chemin, que je ne vais pas en être déviée par des obligations. Mais je sais que là, aujourd'hui, je suis sur mon chemin. Et toutes ces années, j'étais sur mon chemin.
Toutes les épreuves, toutes les beautés.
Ah, tout. Tout, y compris les épreuves, y compris les souffrances, tout ça, ça fait partie du chemin. C'est ça qui vous montre le chemin. Moi, j'ai des gros moments pas faciles très tôt, à 22 ans, où ma vie a vraiment basculé. Et aujourd'hui, je sais que c'était passage obligé et que c'était un formidable enseignement. Formidable enseignement, c'était une initiation, c'était... les épreuves ne sont pas importantes. L'important, c'est la façon dont on les transforme. Ça, c'est important.
La leçon qu'on tire.
La leçon qu'on en tire, ce qu'on en fait. Et si ça vous emmène plus loin, alors c'est gagné. Par contre, bon, voilà, il y en a qui se font dépasser. Je pense que l'épreuve, c'est un abîme pour les faibles et un tremplin pour les forts. Vraiment. Si on dépasse, c'est un vrai tremplin. Et si on choisit de se laisser atteindre, diminuer, détruire, aigrir, parce que l'aigreur, il n'y a rien de pire, alors là, c'est que les forces négatives ont gagné. Et puis, ça tient... C'est quelquefois tellement peu de choses de sortir d'une épreuve aussi. Les rencontres, encore une fois. Mais pour les rencontres, voilà, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est l'ouverture. Il faut accepter une main tendue, il ne faut pas avoir de faux orgueils, il faut aussi se faire confiance, il faut écouter aussi ce que notre corps nous dit. On est tellement habitué à ce que ce soit le mental, mais le mental intellectuel, on n'ose pas
le mental
écouter sa vibration.
Qui veut tout contrôler.
Mais oui.
Pas de la bonne manière.
Voilà. Pas de la bonne manière.
Régi par les peurs, régi par les images qu'on a de soi, etc.
C'est un long chemin, et en même temps, quand la bascule se fait, c'est finalement rapide. C'est comme la préparation d'un athlète. Le moment, la course est longue et le moment où il va sauter l'obstacle est court. Ouais,
il y a toute une préparation et un petit effort.
Ouais. C'est toute une préparation Et qui, c'est la préparation qui fait qu'on va... On sait, si on rate notre appel pour sauter l'obstacle, on ne sautera pas. Et c'est ça. Donc, ben oui. Ben, c'est, donc, le terrain, c'est super important.
Alors aujourd'hui, en parlant de terrain, concrètement, c'est quoi votre chemin en ce moment ?
Ben, c'est difficile de mettre des mots dessus. C'est difficile de mettre des mots sur ce qu'est le chemin. C'est...
Vos projets, peut-être, l'actualité ?
Ben, je ne sais pas. Parce que je ne sais pas pour le moment sur quoi je vais aller. Je ne sais quoi, je ne sais pas. Parce que je n'arrive pas à trouver ce qui me plaît. Donc, c'est très embêtant. Je n'arrive pas à trouver ce qui me plaît. Ce qui me plaît, en fait, est dans les images que j'ai envie de faire, dans ce que j'ai envie de filmer, de tourner.
Ah, quand même, ça serait d'en tourner quelque chose,
ouais,
quand
l'impression,
même.
Hein. J'ai l'impression que ça va repartir là-dedans. Ouais, parce que j'aime les gens. J'ai envie de montrer les belles personnes, de montrer ce que l'envie peut faire, ce que la passion peut faire. J'ai envie d'avoir des témoignages de gens qui ont écouté leur cœur, qui ont vécu avec leur cœur, qui ont travaillé avec leur cœur, qui sont encore des témoins d'aujourd'hui, peut-être des gens qui n'existent plus, même chez les vieilles personnes. Je regrette, je déplore ce non-respect aujourd'hui des personnes âgées, que les jeunes n'aient plus le respect, qui méprisent les personnes âgées. Elles ont un trésor en elles, une mémoire d'un temps révolu, où le respect parlait, où les choses avaient une vraie valeur, où la parole avait une valeur, les mots avaient une signification profonde. C'est fini, ça. Et ils sont les témoins de ça. Et d'une époque révolue. C'est clair. Le monde est allé tellement vite, là, en quoi ? En 50 ans, c'est... Mais l'homme ne suit pas. Il ne suit pas. Je pense pourquoi il y a autant de cancers, autant de toutes ces maladies, c'est qu'il n'est pas équipé pour. Et on lui impose un rythme de vie pour lequel il n'est pas fait. Je pense réellement. Il y a un stress. L'homme, il n'a jamais été fait pour le stress. Et le stress est partout, partout, partout.
Est-ce que le féminin, justement, le féminin, la sagesse du féminin ou le féminin de la sagesse aurait quelque chose à apporter, hein, justement, dans ce monde actuel ?
Mais bien sûr, bien sûr. Mais d'ailleurs, c'est ce qui est en train de se passer. Les femmes sont de plus en plus sur le devant de la scène, quand même. Et il me semble, en tout cas, que même au niveau de ceux qui ont le pouvoir, il y a quand même un regard qui se tourne vers les femmes. Nous, on est privilégiés, quand même, en Occident. Bon, il y a quand même des choses horribles qui se passent. Il y a des femmes qui sont battues, maltraitées, tout. Mais malheureusement, on ne peut pas empêcher... Il y a des horreurs qui se passent. Mais en même temps, il y a quand même des lois et des mouvements qui se créent pour libérer un peu, de plus en plus, quand même. C'est pas encore ça, mais il y a du progrès. Je trouve qu'on regarde plus les femmes... malgré tout, dans le monde, me semble-t-il. Et les hommes sages parlent de l'importance de la femme dans ce monde. Parce qu'ils disent justement que c'est par la femme que la paix peut s'étendre sur le monde, pas par l'homme. L'homme est un guerrier. La femme transmet la vie. La femme, elle est porteuse de ça.
Il y a des valeurs qu'on peut appeler proprement féminines et qui peuvent...
Ah mais oui, mais il y a des valeurs qui sont... Pour ça, moi, je déplore quelquefois que les femmes ressemblent à des mecs. Je trouve ça dommage. Je pense que la femme, en restant femme, elle peut très bien tenir la place d'un homme sans pour autant se masculiniser. La femme peut très bien, à partir du moment où elle a en elle le pouvoir et la conscience de la réalisation, elle peut le faire sans devenir un homme. Sans se masculiniser. Mais je pense, oui, que le féminin est capital. La femme a en elle, je dirais, d'essence, de naissance, beaucoup plus de compassion, une tendresse, une ouverture, mais elle est obligée. Elle s'ouvre déjà à un petit être qu'elle va porter en elle. Elle offre son corps et peut-être sa vie à un petit être qui grandit en elle, déjà. C'est extraordinaire. Donc elle se met en ouverture totale, en coupe. Donc ça, déjà, c'est juste magique. C'est fabuleux. Et ça, il n'y a rien qui peut remplacer ça. Donc elle a en elle, déjà, la souffrance, la conscience de la souffrance consentie, acceptée pour prolonger la vie. Un homme ne peut pas avoir cette conscience-là. Les hommes, ils ont peur de la souffrance physique. La femme, beaucoup moins. Ils sont beaucoup moins résistants à la souffrance que les femmes. Et ils sont beaucoup moins forts. Ils sont plus forts physiquement, mais ils sont moins endurants d'une certaine façon. C'est autre chose, quoi. Nous sommes des êtres différents. Mais on peut apprendre à s'harmoniser. Et en fait, à partir du moment où l'homme reconnaît, identifie, reconnaît et cultive son féminin, je pense réellement qu'à ce moment-là, les hommes et les femmes peuvent s'harmoniser. Et tout le monde a y gagné. Mais il me semble que les hommes acceptent de plus en plus leur féminin quand même.
C'est peut-être ce qui vous a attiré vers l'Asie, où là le féminin est sacré, la dimension féminine est
reconnue. Oui, en même temps, les femmes, elles ne sont quand même pas forcément bien traitées. Oui,
c'est sûr. Mais par contre.
Mais dans le bouddhisme, oui, l'Asie, le féminin est sacré, bien sûr.
Le féminin est sacré. Donc...
Mais Marie aussi, la Vierge Marie aussi.
Oui, c'est vrai. Mais on la met peut-être pas autant, on lui donne peut-être pas autant toute sa place.
Ça, c'est que les hommes sont tout ça c'est des croyances. Bon, pareil chez les Tibétains, c'est Tara et Tara qui est le Bouddha féminin, qui est signe de protection, de longue vie, d'inspiration. Donc j'aime qu'on prie une divinité qui a ces symboles là, mais je préfère prier une divinité, c'est vrai, qui soit ce symbole, plutôt que de prier Marie, qui pour moi est une imposture de base. J'ai du mal. Alors on me dit la Vierge Marie, non, moi je suis désolée, je n'adhère pas à ça, je ne peux pas adhérer à ça. J'adhère à Mère Teresa, j'adhère à Sœur Emmanuelle, je ne peux pas adhérer à la Vierge Marie. Et je trouve dommage aussi que l'image de la, que le symbole de la, du christianisme soit un être crucifié en souffrance. Avec notre religion judéo-chrétienne, la souffrance fait partie de l'homme. Non, moi un Bouddha m'inspire. Je peux faire une collection de Bouddhas, il n'y aurait pas l'idée de faire une collection de sacrifices, de crucifix. C'est dommage que la représentation de la religion du christianisme soit ça.
Oui, c'est d'ailleurs peut-être ce qui explique qu'il y ait tant de gens qui n'ont pas accès à une vraie spiritualité et qui sont tout de suite repoussés par ces images-là.
Mais oui, parce qu'il y a trop de bornes. On n'apprend pas à l'homme à se libérer, on le rend... dépendant. On le rend dépendant et coupable. Alors que c'est vrai que moi, dans les enseignements bouddhistes, d'abord, c'est une science de l'esprit, le bouddhisme, avant tout. J'ai trouvé que c'était une religion, entre guillemets, donc libre-exaministe, qui nous laisse mettre des choses, qui nous propose, et en fonction de ce que l'on ressent profondément, si on sent qu'on est en accord avec... Alors là seulement, on adopte. Et il n'y a pas de dogme comme on peut trouver dans toutes les autres religions. Et les religions, en fait... On parle de religion, alors on dit... Moi, ce que je revendique, c'est la spiritualité, plus que toute autre religion, finalement. Et parce que la religion devrait être la cour à transmission de la spiritualité... Ça n'a malheureusement que rarement été le cas, pour ne pas dire jamais. Ça plutôt, et quand je vois toutes les guerres qui ont lieu au nom de l'islam, qui ont eu lieu au nom du protestantisme, du christianisme, enfin, ça, catholique, protestant. Je peux pas adhérer à tout ça. Pour moi, ça peut pas avoir une vraie valeur. On peut pas prétendre se rallier au divin et faire ça et semer la mort au nom de Dieu, au nom d'Allah. Non. Disposer de la vie de milliers de personnes dans les attentats pour rejoindre la place à côté d'Allah et être entouré de je sais pas combien de vierges, mais c'est quoi? C'est n'importe quoi.
Donc vous êtes pour une spiritualité...
Ah bah, 200%.
Vraie, libre, oui. Qui permette à la conscience de grandir, oui. dans cette liberté.
Oui, mais la conscience, on n'en parle pas dans les religions. C'est number one. Bah oui, c'est number one, la conscience. Être conscient de ses actes, de ses gestes, de ses pensées, de ses paroles et de leur portée. Ça me semble quand même être la règle numéro un.
Oui, même sans parler de spiritualité dans la vie en général.
Dans la vie en général.
Ça devrait être la base.
On devrait être en conscience. Voilà, l'éveil de la conscience. Puis après, on fait ce qu'on veut. Mais au moins qu'on soit un petit peu en éveil, un tout petit peu, sans être illuminé. Tout le monde ne peut pas se targuer, malheureusement, de connaître l'éveil. Mais la graine de l'éveil est en nous. C'est ça qu'il ne faut pas perdre de vue. La graine de l'éveil est en nous. Et c'est ce que j'aime justement chez les bouddhistes, c'est que voilà, dans les enseignements du Bouddha, Bouddha dit « La graine de l'éveil est en chacun de nous. » Et il y a une base de chemin. Et c'est le choix de chaque être humain. Et on a une responsabilité dans notre vie, dans ce qui nous arrive. On n'est pas déresponsabilisé par l'adoration d'un Dieu.
Il y en a beaucoup qui adorent pour ne pas faire le travail de devenir.
Ah ben bien sûr.
C'est plus facile d'adorer
beaucoup plus facile
que d'être.
Beaucoup plus facile. Voilà. Mais ça n'a pas de sens. Pour moi, ça n'a pas de sens. C'est... Non.
Là, c'est toute votre vie, en fait. C'est ça, votre projet de vie, votre actualité.
C'est ça, votre... Mon projet de vie, c'est ça, mon actualité.
On l'a touché, finalement. Oui. Après, comment ça va se matérialiser,
C'est secondaire.
C'est secondaire.
C'est secondaire.
Et c'est beau que ce soit mystérieux aussi, que ça se révèle au fur et à mesure.
Oui, parce que ça fait quelques années, là, ces dernières années, où, en fait, depuis que j'ai sorti mon livre, depuis que j'ai fait, finalement... ce voyage, eu envie de faire ce documentaire. La sortie de mon livre, qui finalement a précédé le documentaire, ce qui a été un best-seller, donc c'est pas par hasard non plus, c'est parce que je parle de choses que les gens ont envie d'entendre. Ils ont envie d'entendre, mais en plus, si c'est quelqu'un de familier et de crédible à leurs yeux, parce qu'ils la sentent, voilà, proche de leur intimité, qu'ils leur en parlent, tout d'un coup, ça prend une autre résonance. Alors si, ce qui peut me rendre heureuse d'être connue, d'avoir ce lien d'affection profond que j'ai avec le public, eh ben voilà, c'est que ce lien me permet de leur faire passer, ou de leur faire toucher du doigt en partage, parce que le mot partage est pour moi essentiel dans cette vie, des choses essentielles. Voilà, eh ben je me dis... Je suis pas passée pour rien. Ça c'est bien déjà. J'ai au moins fait quelque chose de ma vie, de ma précieuse vie humaine.
C'est votre mission de Dakini en devenir.
Oh, Dakini en devenir, j'ai pas cette prétention, mais en tout cas d'être sous la l'inspiration du principe féminin. Ça, j'espère que oui, que ça va être le cas.
Et votre ressenti au matrimonial ?
Très puissant. Très puissant. Ce rayon qui transperce cette boule, qui transperce et qu'on retrouve en bas aussi avec cette eau qui ruisselle comme sur les écailles de la terre, de la genèse. Enfin, moi, c'est ce que ça me... Et de regarder, on a l'impression qu'on rentre au centre de soi. Il y a quand même des trouvailles de totalement visionnaires dans cette construction qui sont absolument magnifiques. Vraiment. Moi, j'ai été... Mais le Bagnan me fait... Le Bagnan qui est à côté du Matrimandir me fait aussi un effet... Le Bagnan lui-même, d'ailleurs, où qu'il soit, me fait un effet formidable. Parce que pour moi, il est tellement le symbole de tout, de la mort et de la renaissance, et de la roue de la vie. Et c'est magique. Comment, voilà, on va tout à coup d'une branche qui semble mourir parce qu'elle tombe, et bien non, elle va s'enraciner et renaître et repartir, retrouver une deuxième lumière, une autre source de vie et continuer à sur les branches. C'est magnifique comme symbole.
C'est un beau symbole d'unité humaine.
Mais on a l'impression de loin que ce sont des piliers qui sont posés sous les branches pour tenir les branches de loin. Et puis en s'approchant, on se rend compte qu'en fait, c'est des branches qui se sont plantées. C'est totalement naturel. C'est beau. C'est oui, beau.
Toutes ces branches qui sont liées les unes aux autres comme les humains unis.
Mmh. Et oui.
Qu'on en soit conscient ou pas, on est tous.
Unis. On est, bien sûr. Ouais. On fait tous partie d'un tout, de toute façon. Ouais. Ça, il ne faut pas l'oublier. On fait partie d'un tout. On est des toutes petites choses qui essayent de grandir. Donc, autant grandir de son mieux. On fait tous du mieux qu'on peut. Ouais. Enfin, on fait tous mieux. Non. Voilà, encore une chose. C'est important d'essayer de faire de son mieux. Après, on fait moyen, bien, très bien, formidablement bien. On fait l'exception. Chacun fait comme il peut. Et c'est pas parce que l'un va plus doucement que l'autre qu'il est condamnable. L'important, c'est qu'il fasse de son mieux.
Est-ce que votre documentaire a aidé d'une façon ou d'une autre le peuple tibétain?
Non,
ou...
non. Non, hein. Mais je pense que ce documentaire, je peux pas à mon petit niveau les aider. Ce que je peux faire en revanche, c'est attirer l'attention sur les centaines ou les milliers de personnes qui vont voir, en l'occurrence les milliers de personnes qui vont voir le film. Voilà, d'attirer leur conscience sur ça, d'attirer leur attention et d'éveiller leur conscience au problème tibétain. Voilà. Mais c'est pas ça qui changera les choses.
C'est une action invisible.
C'est une action
de conscience.
Pas invisible, je dirais, c'est une action de fond.
Oui.
Une action de fond et qui permet aussi, comme permet mon association aujourd'hui avec les 260 enfants qu'on parraine, avec la restauration de monastères, la construction d'écoles, de faire un travail de fond et d'aider le peuple tibétain à survivre dans sa culture. Voilà, ça sert en tout cas à ça. À attirer l'attention sur de ce problème et de l'importance à préserver cette culture qui est un pur joyau.
Et qui est un pur joyau dans votre cœur aussi.
Ah oui. C'est un joyau que je porte dans mon cœur, que je chéris et que je veille à ne pas trop... Et trahir malgré quelquefois les tentations.
Bon, bah, j'espère que vous allez revenir en tout cas.
Oh, il y a de fortes chances, oui. je pense vraiment. Oui. Je suis tellement bien ici, tellement bien. Mais il me faut une semaine, par contre, pour me fondre. Voilà. Pas une semaine, 5 jours. Quand j'arrive, je suis encore énervée. Au bout d'une semaine, j'ai décollé.
Vous êtes encore là combien de jours?
Bah, pas énormément, encore 5 jours, 4-5 jours. 5 jours. C'est pas beaucoup, c'est plus beaucoup. Mais c'est tellement de choses fortes qui me sont encore arrivées, ce voyage-là, que c'est bien, j'en ai plein ma musette.
Ah, génial.
J'en ai plein ma musette.
Ressourcée pour retourner à Paris.
Ouais.
Avec les
yeux
qui brillent.
Oui, et puis voilà, avec l'âme qui brille, le cœur qui fait des bons, et puis de me dire que j'ai plein de jolies choses encore à dire, à faire passer, et qu'il ne faut pas perdre espoir, surtout.
Et voilà. Plein de sourires en réserve.
Et plein de sourires en réserve. Il y a intérêt, hein.
Merci beaucoup.